C'est le moment de l'interview scientifique. Bonjour Madame Nguyen Danse. Vous êtes physiothérapeute et chercheuse clinicienne à l'Université de Genève. L'un de vos sujets de recherche porte sur l'impact de l'usage des écrans sur le cerveau et notamment le comportement des adolescents. Face à vous, des collégiens ont choisi ce thème pour réaliser ce podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je laisse maintenant la parole aux élèves qui vont vous poser leurs questions. Et on commence par Nathan.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail ?
Alors mon métier, donc je suis postdoctorante. Il y a différents statuts dans la recherche académique et c'est le statut qui vient après les personnes qui ont soutenu leur doctorat. Ce que l'on fait au quotidien, c'est gérer des études, donc la logistique d'une étude scientifique, depuis la réalisation du protocole, aller faire les passations avec nos participants. Et à la fin d'une collecte de données, on va les analyser. Il y a toute une partie d'analyse de données. Et quand on a fini d'analyser, on écrit des articles scientifiques qu'on soumet à des maisons d'édition. Et dans nos tâches quotidiennes, c'est aussi la relecture d'articles d'autres confrères et consoeurs pour valider ou pas certains articles. Dans les autres tâches, il y a l'écriture de demandes de fonds de recherche pour continuer à faire les études qui arrivent les années suivantes. De la prise de parole en public pour des conférences. Et puis, il y a souvent de l'enseignement dans les niveaux de bachelor ou de master, et puis aussi des conférences dans diverses institutions, dans les différentes écoles. Donc, voilà à peu près en pré-globalité mon travail.
Merci. Nathan, tu avais une deuxième question ?
Les applis et les jeux sont-ils faits exprès pour nous rendre accros ?
Alors, pour ça, c'est une super chouette question. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est les intérêts en fait des entreprises de la tech en général, donc celles qui ont des applications ou des jeux vidéo. Leur intérêt, c'est qu'on utilise leurs outils ou leurs produits. Dans certains types de plateformes, comme par exemple des réseaux sociaux ou certains types de jeux vidéo, il y a ce qu'on appelle des dark patterns. Donc c'est des, en français, on pourrait traduire ça par des modèles un peu obscurs. Où on vient développer des produits vraiment pour capturer un maximum d'attention de l'utilisateur. Donc oui, il y a certains types de design, donc ce n'est pas tous les designs, ce n'est pas tous les jeux, ce n'est pas toutes les applis, mais oui, il y a certains designs spécifiques qui sont là pour capturer notre attention. Et plus en fait on les utilise, plus ils peuvent enregistrer des données, plus voilà, ils vont pouvoir faire de la publicité, etc. Donc oui, ça, c'est fait exprès, ça reste des entreprises lucratives.
Merci beaucoup.
De rien.
Sarah avait une question également.
Que se passe-t-il dans notre cerveau quand on scrolle sans s'arrêter sur TikTok ou Instagram ?
Alors ça, c'est une très très chouette question aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est, pour relier à la question précédente, TikTok ou Instagram sont des réseaux sociaux où, à la base, on partage du contenu et on crée un réseau virtuel et des interactions virtuelles entre des personnes. Leur but aussi, comme ce sont des entreprises lucratives, c'est de capturer notre attention au maximum. Donc leur but, c'est de, si on utilise un smartphone ou un réseau social, c'est qu'on reste sur leur réseau social le maximum de temps. Quand on scrolle sans s'arrêter, ça veut dire qu'on est dans un geste qui est très, très automatisé. C'est une certaine habitude qui est automatisée, donc il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas d'inhibition sur ce geste-là. Alors comment ça fonctionne ? Ça se base aussi sur ce qui est très, très normal dans le cerveau, qui est sur le circuit de la récompense. À une certaine tâche, il y a une certaine hormone, là pour le coup c'est la dopamine qui rentre en jeu, qui vient donner une sorte de plaisir immédiat quand on regarde des vidéos très très courtes par exemple, quand on scrolle et qu'il y a une certaine nouveauté à chaque nouvelle publication ou nouveau post. Et ce circuit de la récompense est complètement exploité pour nous permettre de scroller, de regarder un contenu après un autre, après un autre, après un autre, sans s'arrêter, qui nous empêche en fait de nous déconnecter et de travailler sur un stop et sur un j'arrête. À nouveau, ça se base sur un mécanisme du cerveau qui est complètement normal à la base, qui permet en fait certaines actions pour la survie, comme par exemple la nourriture.
Sarah avait une deuxième question.
Est-ce que le cerveau d'un adolescent réagit différemment à celui d'un adulte face aux écrans ?
Alors complètement. À savoir que déjà, le cerveau d'un enfant est proche de celui d'un adulte à l'âge de 6 ans à peu près seulement. Et qu'il lui faut aller jusqu'à 25 ans pour avoir vraiment une maturité d'un adulte. Donc clairement, le cerveau d'un adolescent n'est pas du tout mature comme celui d'un adulte. Et il est dans une phase de... il comporte certaines vulnérabilités. C'est un moment où le cerveau est en pleine construction et les zones qui gèrent les émotions et ce fameux circuit de la récompense est très, très activé. Alors que les autres zones que l'on prête souvent à l'adulte, comme des hautes fonctions exécutives telles que le contrôle, donc l'inhibition, la planification, certaines anticipations, ça, c'est vraiment des marqueurs de la maturation d'un cerveau qui vient au fur et à mesure du temps, progressivement jusqu'aux 25 ans, à peu près. Donc en cela, si on reprend un petit peu la question précédente, on est devant un cerveau d'un adolescent qui présente des certaines vulnérabilités face à des designs qui viennent exploiter ces vulnérabilités-là dans la captation de l'attention. Après, il y a une bonne nouvelle, c'est que le cerveau d'un adolescent est très, très plastique. Alors, ce que l'on sait, c'est que la plasticité cérébrale, elle va jusqu'à la fin de la vie. Le cerveau ne s'arrête pas d'être plastique à 25 ans. C'est juste que chez l'adolescent, il est encore plus plastique que chez l'adulte. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que si l'on souhaite changer des comportements ou certaines habitudes, il peut être plus rapide et plus impactant chez l'adolescent que chez l'adulte, par exemple.
Eh bien, merci. Mathis ?
Quel cas extrême avez-vous rencontré concernant l'addiction aux écrans ?
Alors, pour notre cas, notre labo, on n'en a pas rencontré parce que, tout simplement, on est à la faculté de psychologie, on n'est pas dans les hôpitaux universitaires où, eux, en fait, ils sont confrontés aux patients avec des cas extrêmes. Donc, pour vous répondre plus précisément, il faudrait plutôt aller voir des psychiatres ou des psychologues ou des neuropsychologues pour voir vraiment les cas très, 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 très extrêmes pathologiques. Maintenant, ce que l'on sait dans les grosses cohortes qui ont été étudiées, c'est que communément, les temps d'écran ou les activités numériques sur les écrans peuvent entrer en compétition avec d'autres activités. Le fait de rentrer en compétition, si on est par exemple chez le très très jeune enfant, ça peut par exemple remplacer des interactions du très très jeune enfant. Donc là, je parle des enfants de 0, 3 ans, 4, 5 ans par exemple. Ça peut impacter par exemple leur langage. Ils peuvent avoir des retards de langage car l'écran remplacerait des interactions avec un adulte qui viendrait justement lui apprendre le parler. Ce que l'on sait aussi, ce que l'on soupçonne, c'est que chez des enfants plus grands ou des adolescents, les personnes qui ont un terrain anxiogène peuvent plus facilement se tourner vers certains types d'activités sur les réseaux sociaux qui viendraient nourrir en fait une autre forme d'anxiété. Donc, un peu comme le serpent qui se mord la queue, une anxiété qui générait un certain type d'usage problématique sur les écrans, qui viendrait nourrir une anxiété, qui viendrait faire justement ce cercle vicieux-là. Il y a aussi d'autres études qui ont montré en fait un impact de certaines activités numériques avant l'endormissement qui impactent la qualité du sommeil et la durée du sommeil. Donc du coup, à nouveau, les personnes qui seraient les plus à même à vous répondre, ce sont les psychiatres et les psychologues. Nous, à notre échelle de chercheurs en psychologie avec des grosses cohortes, on voit plutôt que les écrans peuvent avoir certains effets sur le sommeil, sur l'anxiété, sur le langage, on ne sait pas trop lequel démarre en premier. Est-ce que c'est vraiment les écrans qui démarraient ou en fait est-ce que c'est certains traits de personnalité de certains enfants qui les amèneraient vers un usage problématique? Ça reste encore à déterminer.
Très bien, merci, c'est très clair. Mathis, tu avais une deuxième question?
Y a-t-il aussi des aspects positifs liés à l'usage des écrans?
Alors, vous, par exemple, parce que j'imagine que vous devez utiliser un écran pour nous enregistrer, pour peut-être faire un montage du podcast. J'ai regardé aussi que vous aviez un site internet, donc certainement quelqu'un s'occupe du site internet pour mettre des contenus, écrire des articles. Et donc tout ça, ce sont des aspects positifs liés à l'usage des écrans. Quand vous créez du contenu, vous êtes productif dessus, que ce soit créatif ou professionnel ou autre.
Merci. Yasmine, avec deux dernières questions à vous poser.
Si vous pouviez donner un seul conseil à un collégien pour garder le contrôle sur ses écrans, ce serait lequel ?
Alors, c'était très, très dur pour moi de choisir, parce que c'était un seul conseil. Si j'en ai un à proposer, ce serait d'apprendre à réguler ses émotions. Parce que si un adolescent apprend à réguler ses émotions, ça veut dire qu'il sait les reconnaître, qu'il sait les nommer. Et surtout, une fois qu'il les reconnaît, il sait développer des stratégies, ce qu'on appelle des stratégies d'adaptation, ou des, en anglais, c'est coping mechanism. Donc, c'est face à une situation stressante ou difficile, de ne pas la subir, de savoir quelle stratégie j'adapte, enfin, je prends pour me réguler sur cette émotion-là. Pourquoi je donne ce conseil-là par rapport aux écrans? C'est que adulte comme adolescent, on se fait parfois happer par nos utilisations, de que ce soit sur le smartphone, les réseaux sociaux, sur l'ordinateur quand on travaille ou peu importe. Si on arrive à déterminer à un moment donné que là, ça devient trop, là, c'est stressant, là, j'arrive pas à gérer, et de savoir dire stop, là, j'arrête, et comment est-ce que je peux passer à autre chose, ou comment je peux naviguer cette situation qui m'est stressante, alors j'ai assez de recul pour aller de l'avant et aller après cette gestion-là. Donc vraiment, apprendre à réguler ses émotions est une des clés assez, assez importantes, je dirais. Donc s'il y avait un seul conseil, ce serait celui-là.
Bien, merci. Yasmine, dernière question.
Quel conseil donneriez-vous à un élève qui souhaite faire votre métier?
Déjà, bienvenue. Et de rester très curieux et curieuse, je dirais. Ça, ce serait la principale chose à poursuivre. D'aller à la rencontre surtout de gens qui nous semblent intéressants, donc de chercheurs ou de chercheuses, ou des métiers qui nous intéressent. Et puis tout simplement de se documenter, de lire un maximum sur les thèmes qui nous intéressent. Nous, vraiment, notre métier, là, le cœur de notre métier, c'est notre curiosité et c'est le fait de vouloir apprendre davantage, de chercher pourquoi certaines choses marchent avec les mécaniques. C'est vraiment le but de notre métier. Donc, restez curieux.
Eh bien, c'est un conseil qui revient très souvent lorsqu'on interview les scientifiques durant les... Hein, à chaque fois.
Ce n'est pas un vilain défaut. Quand elle est bien placée, elle est bien vue.
Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à poser par rapport à tout ce que vous avez entendu?
Je pense.
Oui, Sarah, vas-y.
Est-ce que vous-même, vous restez beaucoup de temps sur les écrans?
Alors, beaucoup trop. Si on prenait juste le temps d'écran, nous, en tant que chercheurs, on est clairement, je dirais pas addict, mais on est clairement dans un usage problématique. On est facilement happé par ce que l'on fait. Alors, quand je dis écran, c'est je compte mon temps professionnel dessus. C'est-à-dire que je suis 8 heures au minimum par jour sur mon ordinateur pour faire mes tâches. Quand vous faites 5 fois 5 jours de la semaine, ou parfois, souvent, on se fait aussi happer parce qu'on va préparer des conférences, puis c'est volontiers qu'on fait, c'est vraiment un travail passion. On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment... à quel moment est-ce qu'on reste dans la bonne santé physique et mentale tout de même? Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'un des meilleurs conseils, c'est d'avoir une certaine régulation de nos émotions, de savoir les gérer. Parce que clairement, il y a certains métiers, et les chercheurs, on n'est pas les seuls. Vous prenez d'autres secteurs de l'industrie où on est souvent devant nos ordinateurs, où parfois en rentrant de nos heures de travail, certains d'entre nous, on est sur nos téléphones en train de chercher d'autres informations. Puis à côté de ça, notre vie privée sur laquelle on va peut-être gérer certaines autres tâches. On a beau connaître les bons principes et la théorie, on n'est pas forcément les meilleurs exemples. Et pourtant, on se doit être un bon exemple pour les générations d'après aussi. Donc, mea culpa aussi, je ne suis pas le meilleur exemple, mais j'essaye d'être un modèle quand même, si on peut.
Mathis avait une question supplémentaire.
Exact. Qu'est-ce que vous travaillez en ce moment dans vos laboratoires?
Alors, moi, sur mon sujet en particulier, je mène une cohorte. Donc, ça veut dire que je suis 1000 adolescents en Suisse sur 2 ans. Tous les 6 mois, je retourne dans les écoles. Enfin, pas moi, mais notre équipe, on retourne dans les écoles et on vient poser des questions de comment vous utilisez vos écrans, c'est-à-dire vos smartphones, quels jeux vidéo vous jouez, qu'est-ce que vous faites sur vos ordinateurs, etc. On leur propose de jouer à des jeux vidéo assez courts pour mesurer leur attention, leur inhibition, certaines fonctions cognitives. Et du coup, mon sujet d'étude maintenant, c'est de déterminer est-ce qu'il y a des trajectoires de vie chez les adolescents entre 11 et 19 ans pour savoir quels sont les indicateurs aux usages problématiques, c'est-à-dire pour déterminer des profils où il y aurait des indicateurs protecteurs, comme par exemple peut-être des règles d'usage à la maison, des règles d'usage dans les écoles, je dis par exemple, qui viendraient les protéger de certaines dérives des écrans. Et est-ce qu'il y a des indicateurs comme peut-être des scores assez hauts d'anxiété, de dépression, ou peut-être des profils d'autisme ou de TDAH qui viendraient en fait les amener à jouer plus aux jeux vidéo, plus à utiliser certains types de réseaux sociaux. Et même d'aller un peu plus en détail sur les réseaux sociaux, si je prends cet exemple-là, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dessus ? Est-ce que c'est juste l'interaction sociale ? Est-ce que c'est juste la validation sociale ? Est-ce que c'est juste parce qu'ils s'ennuient, qu'ils ne savent pas faire autre chose, etc. Donc, c'est vraiment mon cœur d'étude actuellement. Et juste pour un petit teaser, chez mes collègues, beaucoup travaillent avec les jeux vidéo même pour déterminer est-ce qu'il y a des jeux vidéo qui viendraient améliorer l'apprentissage de la lecture, qui viendrait améliorer certaines fonctions cognitives, etc. Donc, on a vraiment un labo assez large sur certains types d'études.
Vous avez déjà des premiers résultats assez, on va dire, pertinents par rapport à ce type d'études ?
Alors, nous, on est vraiment dans les tout premiers...
D'accord.
Les premières analyses. Quand on vient parler d'un profil d'élève qui viendrait prédire une certaine utilisation d'écran derrière, soit on le fait de manière simple et on prend juste l'âge et un score qui serait problématique ou pas. Et ça, je peux vous le dire, ça, on a déjà commencé à faire nos analyses dessus. Là où je prends des précautions, c'est qu'on n'a pas vérifié si c'était vraiment que l'âge ou est-ce que c'était parce qu'ils habitaient dans des villes différentes ou est-ce que c'était le statut économique et social qui était différent, etc., etc. Donc, du coup, c'est à prendre avec beaucoup de précautions. Mais par contre, ce que je peux déjà vous dire, c'est que les écrans ne peuvent pas mettre dans un seul sac. Ce que l'on trouve comme relation entre le sommeil et les écrans ne va pas être le même entre réseau social et sommeil. Ce ne sera pas le même entre jeux vidéo et sommeil et pas le même entre le smartphone en général et le sommeil. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des types d'appareils électroniques, ordinateur, tablette, TV, écran. Il y a des types de contenus, jeux vidéo, réseaux sociaux, ou juste faire du montage audio, par exemple. Donc ça, ça sera très différent en termes de conclusion. Voilà, ça, je peux vous partager comme ça, on va dire.
Très bien, merci. Moi, j'avais une question par rapport, on parle beaucoup, entre autres en France, de régulation des écrans et des temps d'écran, à légiférer assez sérieusement sur les interdictions moins de 16 ans, moins de 18 ans. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui serait efficace sur les adolescents, entre autres ?
On en a beaucoup parlé au sein du labo et puis avec nos collègues. C'est quelque chose que je comprends, c'est-à-dire que quand on est au niveau national et qu'on a besoin d'avoir un message clair pour tous ses concitoyens, on se doit d'avoir un seul message. Et je comprends totalement l'interdiction, typiquement pour les réseaux sociaux moins de 16 ans, ou même, je crois, certains jeux vidéo pour les moins de 7 ans. Enfin, bref, il y avait vraiment des âges un peu magiques, assez clés, que j'entends. Maintenant, le problème, c'est que si vous mettez des grosses interdictions avec des seuils d'âge un peu magiques, ça enlève tout accompagnement et toute guidance possible, toute éducation aux médias qui serait vraiment qui serait à notre goût assez important. Si vous laissez un adolescent découvrir les réseaux sociaux à 16 ans le jour de son anniversaire et que vous n'en avez jamais parlé auparavant, déjà, est-ce que c'est sûr que ce sera vraiment sa première fois sur un réseau social ? C'est pas encore dit. Donc, en fait, le mieux pour nous, c'est les écrans, le numérique est omniprésent. Donc, autant les accompagner dès le plus jeune âge. C'est-à-dire, un bébé, quand il naît, il voit son parent sur un smartphone déjà. C'est déjà présent. Donc, autant en parler, savoir, nous, en tant qu'adultes, quel est notre usage au smartphone, quelle image on donne à nos enfants par rapport à notre propre usage, et surtout, communiquer sur nous ce que l'on fait dessus pour qu'en fait, l'enfant, en grandissant petit à petit, puisse aussi nous communiquer ce qu'il fait dessus. Donc, nous, on mise plutôt sur une éducation aux médias pour savoir quel type de contenu est peut-être pertinent. Attention, quand tu tombes sur un contenu qui n'est pas pertinent pour toi, sache quand quand tu te sens inconfortable face à ce type de contenu. À l'adolescence, où souvent, parfois, entre parents et adolescents, il y a une communication qui peut être assez électrique, de quand même s'intéresser à ce que fait son enfant. Donc, ça peut être, on peut le voir devant son écran, mais en fait, venir ramener du dialogue de « Ah, ça m'intéresse ce que tu fais, qu'est-ce que tu es en train de faire dessus ?» De venir vraiment discuter avec son adolescent et donc ramener vraiment de l'intérêt de la communication. Donc, on comprend ces interdictions et on la trouve dommage parce qu'en fait, ça empêche d'accompagner en tant qu'enseignant, éducateur, parent ou même clinicien les enfants dès le plus jeune âge alors qu'ils le voient, ces écrans-là autour d'eux tous les jours.
Merci beaucoup. Compréhensible,
mais avec nuance.
C'est clair.
Merci beaucoup.
Merci à vous et pour votre intérêt.
Très bien. Très chouette. Merci encore pour votre participation à ce podcast.
Et ben avec plaisir alors. Et puis bon courage pour la suite.
Merci.